Bienvenue sur les chroniques de la Revue française de comptabilité. Au sommaire du numéro de mars, cap sur un sujet au cœur des préoccupations des dirigeants. La protection des entreprises à l'ère des cybermenaces. Sécurité des systèmes, cybersécurité et gestion de crise y sont abordés. Analyse et recommandations d'experts pour aider les entreprises à mieux se protéger.
Et c'est une analyse qui tombe à un moment véritablement charnière pour le monde économique.
Absolument. L'objectif de notre échange aujourd'hui est de décortiquer ce dossier extrêmement dense issu du numéro de mars. Un dossier qui anticipe l'évolution de la menace cyber pour l'année 2025. Nous nous appuyons sur des données prospectives très précises, notamment celles de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr.
Une structure nationale de premier plan d'ailleurs qui implique directement le Conseil national de l'ordre des experts comptables.
C'est exact. Notre mission est claire. Il s'agit de décrypter les nouvelles typologies de menaces, d'étudier l'impact foudroyant de l'intelligence artificielle sur l'arsenal criminel et d'examiner les nouvelles obligations légales européennes, je pense notamment aux réglementations NIS 2 et DORA.
Sans oublier, le rôle central est devenu totalement incontournable des professionnels du chiffre dans la gestion de ces crises. La gestion du risque cybernétique est définitivement franchie un cap.
Un cap majeur, en effet.
Il fut un temps où ce sujet a été relégué au seul département informatique. C'était traité comme un problème technique à résoudre avec un simple pare-feu. Aujourd'hui, il s'agit d'un enjeu stratégique de gouvernance au plus haut niveau de l'entreprise.
Et c'est là que les professionnels de la finance, les experts comptables et les auditeurs se retrouvent en première ligne.
Mais ils constituent surtout les conseillers stratégiques indispensables pour assurer la résilience de l'économie globale, une économie confrontée à des menaces devenues systémiques.
Le point de départ idéal pour mesurer cette évolution, c'est le panorama des menaces pour 2025 dressé dans le dossier. L'évolution concrète des attaques par rapport aux années précédentes révèle une mutation profonde dans la stratégie des assaillants.
Une mutation très claire dans les chiffres. L'année dernière, l'hameçonnage, ce fameux phishing envoyé en masse pour tromper les utilisateurs, dominait largement le classement.
Mais les données pour 2025 montrent un véritable changement de paradigme. Le piratage de comptes prend désormais la première place. Cela concentre 21% des demandes d'assistance sur la plateforme nationale. L'hameçonnage, lui, est relégué au second plan.
Ce recul ne signifie absolument pas que le phishing a disparu. C'est plutôt qu'il est devenu la phase préparatoire d'une attaque beaucoup plus ciblée et redoutable. Je parle de la fraude au virement, aussi appelée FOVI, qui enregistre la hausse la plus forte avec un bond de 2 points.
C'est une mécanique redoutable. Cette fraude au virement s'appuie sur une manipulation psychologique et technique d'une efficacité clinique.
Précisément, car elle exploite ce qui fait tourner l'économie entière, la confiance légitime entre des partenaires commerciaux. Le mode opératoire ne repose plus sur une attaque en force brutale, il repose sur une infiltration totalement silencieuse.
Le point d'entrée classique, c'est le piratage d'une messagerie professionnelle, n'est-ce pas ?
Souvent, oui. L'attaquant exploite un mot de passe trop faible ou déploie ce que l'on nomme un infostealer. Ce virus furtif s'installe sur le poste de travail de la victime et se contente de dérober silencieusement les identifiants des navigations sans déclencher la moindre alerte.
La particularité de cet infostealer, c'est qu'il transforme le pirate informatique en un véritable espion industriel.
C'est exactement le terme. Une fois introduit dans la boîte de réception, l'attaquant ne lance pas de rançongiciel immédiat. Il fait preuve d'une patience que l'on pourrait qualifier de redoutable. Il observe les échanges.
Il étudie la sémantique utilisée par les collaborateurs, repère les fournisseurs réguliers, identifie les transactions financières imminentes. Le dossier met d'ailleurs en lumière un cas d'école très concret, celui de la campagne Impact Cyber, qui relate l'histoire de Sam, un artisan dans le BTP.
Un profil extrêmement classique. Un chef d'entreprise concentré sur ses chantiers, dont la boîte mail est gérée de manière très opérationnelle. Le pirate, tapis dans l'ombre de la messagerie, repère l'arrivée d'une grosse facture d'un fournisseur habituel de matériaux de construction.
Et c'est là que l'usurpation d'identité se déploie dans toute sa perfection.
C'est là que le piège se referme. Le cybercriminel intercepte l'échange et transmet à l'artisan une facture d'apparence strictement identique à celle du fournisseur légitime. Même charte graphique, même ton dans le corps de l'email, même référence de commande.
La seule altération, minuscule mais dévastatrice, concerne le relevé d'identité bancaire.
Voilà. Le prétexte invoqué est souvent un simple changement de banque ou une réorganisation comptable du fournisseur. L'artisan valide le paiement, persuadé d'honorer sa dette légitime. L'argent est transféré sur un compte de rebond contrôlé par les criminels.
Et la trésorerie de l'entreprise s'évapore en quelques clics. L'histoire de cet artisan permet de balayer une illusion très tenace, celle qui voudrait que seules les multinationales du CAC 40 soient ciblées.
C'est une erreur de jugement fatale. Les très petites entreprises, les PME, les professionnels libéraux et les cabinets d'expertise sont frappés de plein fouet.
Les chiffres de l'année 2024 viennent confirmer cette vulnérabilité généralisée avec 5629 violations de données formellement notifiées à la CNIL.
C'est un volume colossal. Et l'impact est massif quand on regarde les noms des entités touchées. Des institutions majeures comme France Travail, La Poste ou d'immenses opérateurs de télécommunications ont subi des exfiltrations de données inédites.
Des fuites qui ne s'arrêtent d'ailleurs pas à un simple vol. Elles viennent alimenter des bases de données criminelles qui serviront à peaufiner les prochaines campagnes d'attaque ciblées. C'est un cycle sans fin.
C'est ce qui crée une dichotomie particulièrement inquiétante sur le marché actuel. D'un côté, 16% des TPE et PME signalent subir une cyberattaque sévère chaque année. Le risque est omniprésent, il est statistiquement inévitable.
Et de l'autre côté, le fameux paradoxe souligné par l'analyse.
Le paradoxe de la préparation. Les enquêtes de terrain révèlent que 80% des entreprises admettent être insuffisamment préparées pour affronter une telle crise, quand elles n'ignorent pas totalement leur véritable niveau d'exposition.
Le décalage entre l'imminence de la menace et la maturité des mesures défensives crée une zone de vulnérabilité béante pour l'économie. Ce qui nous amène logiquement à la question de l'industrialisation du crime.
Car les attaquants ont définitivement délaissé le bricolage artisanal. Ils ont adopté des méthodes dignes d'une chaîne de production de haute technologie.
Le moteur principal de cette transformation n'est autre que l'intelligence artificielle. Le dossier de la Revue française de comptabilité utilise une analogie extrêmement parlante. L'intelligence artificielle agit comme un exosquelette pour les cybercriminels.
Une image très juste. L'IA ne crée pas nécessairement des types de fraudes fondamentalement nouveaux. En revanche, elle démultiplie la force de frappe, la vitesse et la précision des attaquants dans des proportions vertigineuses.
Elle permet d'automatiser l'ingénierie sociale à très grande échelle.
Le marché noir numérique s'est d'ailleurs doté d'outils spécifiquement conçus pour ces opérations. Alors que les intelligences artificielles grand public intègrent des garde-fous éthiques stricts, les criminels ont développé leur propre modèle non censuré.
On parle ici de systèmes comme WormGPT ou FraudeGPT.
Exactement. Ces systèmes échappent à tout contrôle. Ils sont capables de générer des codes informatiques destructeurs ou de rédiger des campagnes de spear phishing, cet hameçonnage de très haute précision, de manière totalement automatisée.
Le niveau de ciblage devient effrayant. Avant l'arrivée de ces outils, une tentative d'hameçonnage se trahissait souvent par des fautes d'orthographe grossières. Aujourd'hui, un outil comme FraudeGPT va, en une fraction de seconde, aspirer le profil LinkedIn d'un directeur financier.
Il va identifier son parcours, les conférences auxquelles il a récemment participé, le nom de ses collaborateurs proches, et il va rédiger un email au ton parfaitement professionnel, sans la moindre erreur. La personnalisation est telle que la vigilance naturelle de la victime est totalement anesthésiée.
Et l'évolution technologique la plus spectaculaire reste l'utilisation des deepfakes, les hypertrucages.
C'est probablement la menace la plus dangereuse pour les mois à venir. La technologie de synthèse vocale permet aujourd'hui de cloner la voix d'une personne avec une précision glaçante.
À partir d'un échantillon audio de seulement 3 secondes.
3 secondes suffisent, oui. Un extrait facilement récupérable sur une vidéo d'entreprise, publique ou un réseau social. Les conséquences pour la fameuse fraude au président bouleversent totalement la donne.
Le scénario est digne d'un film d'espionnage, mais il se déroule quotidiennement dans la réalité économique. Le collaborateur du service comptable reçoit un appel sur son téléphone ou participe à une visioconférence imprévue.
Et à l'autre bout, la voix, le timbre, le rythme et même les tics de langage sont reproduits à la perfection. Le faux président instaure un climat d'urgence absolu.
Il prétexte une acquisition confidentielle ou un contrôle fiscal imminent et exige un transfert de fonds immédiat et discret. Face à une telle pression, appuyée par la preuve apparente de la voix, le collaborateur exécute le virement, convaincu d'obéir à un ordre légitime.
Ce niveau de manipulation pose également un défi structurel concernant l'intégration de ce que l'on appelle l'IA agentique au sein des systèmes d'information des entreprises.
C'est un point fondamental de l'analyse. L'IA agentique ne se limite pas à rédiger un texte sur demande.
Non, elle est programmée pour prendre des décisions et exécuter des séquences d'actions de manière autonome sur les logiciels de l'entreprise. Si cette automatisation représente un gain de productivité évident, elle instaure un risque de délégation aveugle.
Si une intelligence artificielle dispose des droits pour valider des écritures comptables ou émettre des ordres de paiement,
elle peut, en cas de compromission, propager une erreur financière ou valider une fraude massive à la vitesse de la lumière, sans qu'aucun contrôle humain ne puisse intervenir à temps.
Face à un risque devenu purement systémique, la réponse réglementaire s'est imposée. La législation, particulièrement au niveau européen, opère une véritable révolution philosophique.
Les autorités ont acté le fait qu'il est impossible de stopper toutes les attaques. C'est une certitude. L'injonction légale ne consiste donc plus simplement à demander aux entreprises de se protéger. Elle exige désormais de garantir la résilience et la continuité de l'activité.
Même en cas de système compromis. On passe ainsi d'une obligation de résultat sécuritaire, souvent illusoire, à une obligation de méthode rigoureuse et documentée. Le fer de lance de ce nouvel arsenal réglementaire, c'est incontestablement la directive NIS 2.
Son périmètre d'application a été élargi de manière drastique. L'Europe est passée de 6 secteurs historiquement considérés comme critiques, comme l'énergie ou les transports, à 18 secteurs d'activité.
Désormais, des filières entières comme l'agroalimentaire, la gestion des déchets ou les services postaux tombent sous le coup de la réglementation. À l'échelle française, on estime qu'entre 10 000 et 15 000 entités sont directement assujetties.
Elles ont l'obligation formelle de déployer des politiques de sécurité strictes, imposant par exemple l'authentification multifacteur systématique et des audits réguliers d'analyse des risques. C'est une refonte totale de la conformité.
Et le secteur financier bénéficie d'un cadre encore plus coercitif avec le règlement DORA pour Digital Operational Resilience Act. Ce règlement européen est pensé comme une lex specialis, une loi spécifique qui prime sur les directives générales.
En raison bien sûr de la sensibilité extrême du monde bancaire et financier. DORA impose des normes drastiques de gestion des risques technologiques, incluant l'obligation de réaliser des tests de pénétration très poussés.
Mais la dimension la plus frappante de DORA, c'est son effet domino sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
Absolument. Les grandes institutions financières doivent contraindre contractuellement tous leurs prestataires à respecter ces mêmes standards. Et cela inclut les professionnels qui valident des certifications pointues, comme le DEC, le diplôme d'expertise comptable, ou ceux issus des formations spécialisées du CNAM.
Les experts comptables et les auditeurs, qui manipulent quotidiennement les flux et les données de ces institutions, héritent de facto de ces obligations de sécurité de très haut niveau.
Et l'arsenal législatif tente également de s'adapter aux nouveaux usages criminels. En France, la loi SREN apporte une réponse pénale ciblée en créant un délit spécifique réprimant la création et la diffusion de deepfakes réalisés sans consentement.
Au niveau européen, le Digital Services Act, le DSA, vient compléter ce cadre. Les taux réglementaires se resserrent considérablement. Cette pression nous amène directement sur la ligne de front, le quotidien des professionnels du chiffre.
Les experts comptables ne sont plus de simples spectateurs du risque. Ils sont les gardiens des coffres-forts numériques de leurs clients. Il y a une urgence absolue pour ces cabinets de sécuriser en priorité leurs propres infrastructures.
Un cabinet comptable centralise des éléments fiscaux, sociaux, des fiches de paye, des bilans stratégiques. C'est une mine d'or inestimable pour le chantage. Le professionnel doit incarner la rigueur qu'il prêche.
Le Conseil national de l'ordre a d'ailleurs dû émettre une alerte officielle face à des tentatives de fraude très sophistiquées par typo squatting.
Des attaquants ont enregistré de faux noms de domaine, imitant presque à la perfection le domaine officiel expertcomptable.org. En changeant une seule lettre, ils ont tenté de s'insérer dans les échanges pour détourner des cotisations ou récupérer des données sensibles.
C'est pourquoi l'anticipation est la pierre angulaire de la résilience. La littérature professionnelle insiste lourdement sur la nécessité d'élaborer un plan de continuité d'activité et un plan de reprise d'activité, les fameux PCA et PRA.
Ce ne sont pas des documents administratifs à reléguer au fond d'un tiroir, ce sont des leviers de survie.
Cela implique de cartographier avec précision les logiciels métiers vitaux, de cloisonner hermétiquement les réseaux pour qu'une infection sur un poste ne se propage pas au serveur de paye, et surtout de tester grandeur nature la restauration des sauvegardes.
Une sauvegarde qui n'a jamais été testée est une sauvegarde dont on doit présumer qu'elle ne fonctionnera pas le jour J. Et lorsque l'attaque survient, car le risque zéro n'existe pas, la gestion de crise exige des réflexes contre-intuitifs.
Le premier d'entre eux, martelé par tous les spécialistes, il faut isoler le système compromis, en débranchant le câble réseau ou en coupant le Wi-Fi, mais il ne faut sous aucun prétexte éteindre l'ordinateur.
L'instinct humain, face à un écran qui se verrouille, c'est de couper l'alimentation électrique. C'est une erreur fatale. En coupant le courant, on efface instantanément la mémoire vive de la machine, la RAM.
Or, c'est précisément dans cette mémoire volatile que se cachent les clés de déchiffrement temporaires utilisées par le virus, ainsi que les traces permettant de remonter la piste de l'attaquant.
L'autre règle d'or sur laquelle l'ensemble des autorités est unanime, on ne paye jamais la rançon.
Céder au chantage ne garantit en rien la restitution des accès. Pire, le paiement finance directement les cartels criminels et inscrit immédiatement l'entreprise sur une liste de cibles lucratives.
La réaction passe également par un circuit d'alerte très précis. Les dirigeants doivent mobiliser immédiatement le guichet national 17 cyber. Il faut bloquer les flux en avertissant les partenaires bancaires.
Enfin, la réglementation impose une course contre la montre. Dès lors qu'il y a une suspicion de fuite de données personnelles, l'organisation dispose d'un délai strict de 72 heures pour notifier formellement la CNIL.
Au-delà de l'aspect technique et légal, la gestion de crise soulève un enjeu mortel pour la pérennité de l'organisation, le risque réputationnel. Dans le domaine de la communication de crise, on évoque souvent la loi de Brandolini.
Ce principe postule que l'énergie nécessaire pour corriger une fausse information ou restaurer une image ternie est exponentiellement supérieure à celle qu'il a fallu pour la détruire. Les études estiment que la réputation représente en moyenne 25% de la valeur marchande globale d'une entreprise.
Le silence en pleine tempête numérique est perçu comme un aveu de culpabilité. L'histoire financière regorge d'exemples dévastateurs, comme le cas du cabinet d'audit Arthur Andersen au début des années 2000.
Bien que le contexte fût différent, lié à l'affaire Enron et à la dissimulation de preuves, la mécanique de l'effondrement reste la même. La perte brutale du statut de tiers de confiance a conduit à la disparition d'une marque qui régnait sur l'audit mondial.
Transposé au risque cyber, le message est limpide. La transparence mesurée, la communication proactive vers les clients et la démonstration d'une reprise en main de la situation sont les seules planches de salut.
La maîtrise de la conformité juridique et la capacité avérée à surmonter une attaque ne sont plus de simples contraintes administratives. Ce sont les critères fondamentaux qui déterminent le droit même de continuer à exercer son activité.
Pour conclure cette analyse approfondie, il est essentiel de souligner que le piège numérique est désormais tendu dans chaque recoin de l'économie. Les conséquences des failles humaines sont décuplées par l'industrialisation des méthodes criminelles.
L'arsenal technologique modifie chaque jour les règles du jeu.
En guise de réflexion finale, pour prolonger notre regard vers l'avenir, il convient de soulever une perspective évoquée par les experts dans ce dossier de mars, l'arrivée imminente de l'informatique quantique.
Une véritable rupture technologique.
Si l'intelligence artificielle révolutionne actuellement l'ingénierie sociale, la puissance de calcul démesurée des futurs ordinateurs quantiques menace de briser instantanément la totalité des méthodes de chiffrement cryptographique. Celle-là même qui protège aujourd'hui nos échanges bancaires.
La question n'est plus de savoir si nos pare-feux technologiques actuels deviendront obsolètes. C'est une certitude mathématique.
La véritable question est de savoir si la gouvernance de crise de nos entreprises saura se montrer suffisamment agile et résiliente pour s'adapter à cette prochaine bascule civilisationnelle. La Revue Française de Comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrancaisedecomptabilité.fr.